entre les poteaux.
Christophe Cessieux.
Salut à tous, il manque encore un petit quelque chose à l'équipe de France pour régner sur l'Europe du rugby. Les clubs du top 14, eux, ont mis le vieux continent et les îles britanniques au pas. C'est simple, 3 des 4 finalistes qui se disputeront les trophées dans 3 semaines sont français: Toulouse, La Rochelle et Montpellier. Et aujourd'hui, entre les poteaux, on va évidemment se gargariser de ces beaux succès et notamment de cette incroyable victoire rochelaise face au Munster et ses 4 étoiles éteintes par la maestria des jaunes et noirs. Un club qui, en quelques années seulement, a gravi les échelons du rugby européen pour devenir un des cadors de ce rugby d'Europe. Mais désormais, c'est Toulouse qui se dresse sur la route des maritimes. Route européenne, route française, nous ferons le tour des multiples forces en présence. Cette finale nous fait saliver d'avance. Parmi les joueurs qui ont crevé l'écran ce week-end, le néo-zélandais Pita Aki, sans doute le moins connu des Kiwis du stade toulousain. Tout ça parce qu'il n'a jamais porté le maillot des Blacks. Injustice flagrante réparée en partie par le trophée des frelons du week-end. Bah oui, quand même, nous avons décidé de lui attribuer. Alors je sais pas si ça le consolera, mais nous, on est comme ça. On aime faire plaisir, surtout Denis. Quoi d'autre ? En fin d'émission, nous accueillerons un garçon qui a vécu un week-end de rêve. L'équipe qui l'entraîne, le MHR, s'est qualifié pour la finale du Challenge. Le stade toulousain, avec lequel il a gagné comme joueur cette fois 3 Coupes d'Europe et 2 boucliers de Vrenus, est aussi en finale, opposé à un dernier club, celui de son cœur et de sa formation, le stade Rochelais. Vous avez sans doute deviné de qui je veux parler, monsieur Charvet.
Oui.
De qui je parle?
Je sais pas.
Voilà, tout de suite.
Élève dissipé. Hein.
Voilà, tout le monde a compris. Léo Faure, est-ce que Léo a compris?
Non, il n'a pas compris.
Bah oui, vous m'avez prévenu avant l'émission, donc oui.
Ah, voilà.
T'aurais pu passer pour quelqu'un d'intelligent.
Et voilà, raté.
Jean-Baptiste Elissade, évidemment, qui sera avec nous tout à l'heure, Denis. Tu as compris?
J'ai joué contre lui.
T'as joué contre lui?
Oui.
Tu parles.
Ah non, pas Jean-Baptiste,
tu comprends avec ton père. Il est cramé complet. Il est cramé complet.
Il s'invente une jeunesse.
Mais il a été barbarien avec moi, Jean-Baptiste.
Entre Toulouse et La Rochelle, les poteaux aujourd'hui sont partagés. Denis Charvet, on le sait, a le cœur rouge et noir. Hein, mon Denis?
Oui.
Ouais,
tu bah, par force.
Pas par force.
Par cœur, oui.
Dans les veines de Pierre Amiche coule le sang jaune et noir des maritimes. Salut Pierrot.
Bonjour à tous.
Heureusement, nous avons aussi des gars neutres. Hein. Léo Faure est auvergnat. D'Aurillac. Salut Léo.
Salut à tous.
Et puis Jeff Paturo, lui, bon, il sait pas trop où il a mal. Un coup supporter du Racing, du Stade.
Il est neutre, Jeff.
Il est neutre. On se mouille pas.
Des clubs du Pays Basque. Tu vas t'y retrouver quand même, Jeff, dans cette finale.
Stade français, mais ils sont pas là.
Voilà. Prochaine fois.
Et puis, on notera tout de même le forfait de dernière minute de Wilfried Templier qui, après avoir dignement fêté le succès de ses deux clubs, est encore à l'heure actuelle au fond de son lit avec le casque à pointe. Petit moteur, le Rochelet. Très petit moteur. Allez, tout de suite, retour sur ce week-end historique pour le rugby français où seuls les Bordelais n'ont pas eu le cœur à rire.
Antoine Dupont, l'essai qui va envoyer peut-être Toulouse en finale de Coupe d'Europe. 72e minute, une récup de ballon pour les Toulousains sur l'extérieur. Baptiste Germain qui est rentré, qui donne à Ntamak. Ntamak qui dégage en touche. Et le stade toulousain est en finale de Coupe d'Europe. Ce sera la 7e. 4 titres, 2 défaites en finale. La 7e finale pour le stade toulousain.
On est en finale de Coupe d'Europe. On va pas bouder notre plaisir parce que c'est important. Mais la guerre des étoiles est lancée. Et j'espère qu'on aura la capacité à mettre la 5e étoile sur notre trophée, sur notre maillot.
L'essai Rochelet qui va très certainement maintenant sceller le sort de cette rencontre et propulser La Rochelle dans une historique finale de Coupe d'Europe. Et c'est terminé, victoire historique, jour historique à La Rochelle. La Rochelle se qualifie pour la finale de Coupe d'Europe. Ce sera face à Toulouse, effectivement, contre un autre ogre aux 4 étoiles sur le maillot.
Ce sera un rendez-vous magnifique. Je pense que les deux équipes ont la même envie, la même détermination. Donc on connaît la qualité de Toulouse aussi, qui monte en puissance depuis plusieurs années. Donc ça risque d'être encore un très très gros match.
Voilà, un très gros match en perspective, effectivement. Alors, si on a gardé une certaine mesure après la qualif du stade toulousain qui était opposé à un autre club français dont la victoire semblait presque promise d'avance face à un UBB privé de compétition pendant 3 semaines, en revanche, on a craqué, il faut bien le dire, pour le succès Rochelet obtenu face à un grand d'Europe, le Leinster et ses 4 étoiles, complètement éteintes par la folie rochelaise. Franchement, ça valait une cote. Denis, toi, l'habitué des paris impossibles, je suis sûr que tu avais misé ta maison sur la victoire des jaunes et noirs.
Alors, je vais faire mon mea culpa. Je pensais jamais qu'ils réaliseraient l'exploit. Et le matin du match, j'ai changé d'avis et j'ai joué la victoire de La Rochelle.
D'accord.
Ouais, ouais.
Donc,
et en fait, c'est un copain qui m'a appelé et je dis la vérité jusqu'au bout et qui m'a dit mais tu as tort parce que La Rochelle c'est costaud devant. Derrière, ça tient la route. Il y a Skelton qui a gagné deux fois la Coupe d'Europe. Et tout d'un coup, il m'a tourné le cerveau. Je dis mais oui, pourquoi je vois si beau cette équipe de Leicester et pourquoi pas cette équipe de Rochelle réaliserait l'exploit. Et j'ai changé.
Donc tu es un homme riche.
Voilà, non, peut-être pas riche,
mais une deuxième maison.
Heureux, un homme heureux. Mais en fait, en tout cas, bravo et chapeau, ouais. Parce que c'est le match qu'ils ont fait, ils nous ont régalé. Et puis sincèrement, de tenir jusqu'au bout face à une équipe de Leinster comme ça, j'ai trouvé qu'ils dégagent une sérénité incroyable, cette équipe de La Rochelle. C'est ça qui m'a le plus surpris et bluffé.
Ouais. Messieurs, est-ce que vous avez été surpris vous aussi, Léo, par la maestria rochelaise, par ce succès, alors que certains, c'est vrai, leur promettaient quand même une raclée. Hein, faut bien le reconnaître.
Ouais. Hein. Ouais. D'ailleurs, si je note bien dans le son que vous avez envoyé au début, Hugo Mola pensait plutôt affronter Leinster en finale.
Oui, parce qu'il parle de
la guerre des étoiles et lancer.
Ouais, ouais. Exactement.
Et la cinquième absolument.
Étoile. Je m'étais fait la réflexion en entendant le son samedi soir.
Mais c'est absolument pas du tout la pierre parce que très franchement, moi aussi, j'aurais parié, je l'avais pas fait, mais j'aurais plutôt parié sur Leinster pour la force collective, la vitesse collective et en plus les 10 premières minutes donne ce scénario-là, quoi. On se dit que ça va aller trop vite pour les Rochelais. Ouais. Et quand Denis parle de sérénité, c'est alors, la performance elle est gigantesque, mais en plus on sent qu'après ces 10 minutes où ils ont été dominés dans le dur, ils se sont pas affolés,
ils croient
vraiment en eux, quoi. C'est cette force-là, cette conviction-là, elle est impressionnante quand même.
Ouais. Il y a une force collective qui se dégage, et une force mentale, c'est il y a les deux, quoi. Donc tu te demandes où est-ce qu'ils vont s'arrêter.
Ouais, alors qu'ils n'ont pas l'expérience de ces gros rendez-vous, en plus. Ouais.
Enfin, tu as quand même quelques joueurs
qui ont l'expérience,
mais l'expérience collective.
Le discours d'Ogara aussi est important parce qu'il sait pas depuis une semaine, il le martèle depuis le début de saison que la théorie de dire il faut apprendre, il faut prendre le temps, que lui non, lui il dit on veut gagner maintenant, on veut pas apprendre et gagner bientôt, on veut gagner maintenant.
Vous l'auriez entendu Ronan Ogara hier en tribune, il était juste au-dessus de nous, il nous a broyé les oreilles, c'est quelqu'un qui vit des matchs à 100 à l'heure, qui est un peu vulgaire, mais je peux vous dire qu'il donne du boost à son équipe.
Toute la difficulté en finale sera cette approche et au niveau des coachs vont avoir un rôle décisif. Quant à l'approche de cette finale.
Et sur le match en lui-même, Brian O'Driscoll dans la presse irlandaise avait relevé un truc très intéressant, c'est le fait que Leinster avait explosé sur trois joueurs notamment, Winnie Antonio, Gregory Aldrit et Will Skelton qui leur ont fait énormément de mal sur les premiers duels. On sait que face à Exeter, c'est là où le Leinster avait gagné son match en remportant ses premiers duels parce que derrière, eh ben on a plus de vitesse, on se fait pourrir les rucks. Et là,
ils expliquent dans le middle qu'il y en avait trop à cibler en fait. Il y avait trop de
c'est
de,
ça
de,
les porteurs de balles, les porteurs de balles Rochelais, ils ont été excellents et ils ont été dans l'avancée constamment. Et puis il y avait une bonne étoile quand même à De Flandre, c'est la blessure de Rodock qui est un joueur capital pour cette formation là. Il fait 120 kilos, il retourne énormément. C'est lui qui vraiment met les plaquages offensifs dans cette formation avec Van der Flier qui vient gratter et Conan qui est plus un joueur qui est plutôt coureur dans un profil de porteur de ballon. Et là, cette sortie, ça a fait beaucoup de bien à La Rochelle parce que derrière, le Leinster était un peu perdu en défense.
Thierry, avant le match, je disais ouais, Sexton qui n'est pas là, c'est quand même un coup de chance pour La Rochelle. Je disais non, son remplaçant est encore meilleur. Mais bon, je pense que Sexton dans un match comme ça.
Ouais, en fait, c'est pas les mêmes qualités. Sexton, il aurait peut-être été plus intéressant dans un jeu au pied tactique, à pousser les Rochelais, notamment en première mi-temps où ils ont porté beaucoup le ballon alors qu'ils avaient le vent en faveur, le Leinster. Ils ont quand même essayé de mettre du rythme. Ils prennent pas les points, ils vont jouer en touche. Ils essayent d'étouffer comme ils l'ont fait face à Exeter, et Byrne, il a été très bon, mais le truc c'est qu'il prend des avions tout le match dans la gueule. Il prend Skelton, il prend Antonio, il prend Aldrit, il prend Gourdon quand il rentre.
Et le
c'est
vent a joué un rôle.
Eh oui.
Un rôle parce que les Rochelais sont habitués à ce vent.
Ouais, les Irlandais, ils ont un
peu. Non, mais en seconde mi-temps, il y a eu un vent dans le dos pour les Rochelais.
Bon, il n'y avait pas des rafales de 100 km/h non plus.
Non, mais ils ont très bien utilisé le jeu au pied. Ils ont été formidables en seconde mi-temps, alors que les Leinster n'avaient été.
Ils n'ont pas du tout. Ouais, ils n'ont pas du tout joué là-dessus.
Mais c'est vrai, Léo, a priori, pour les adversaires de La Rochelle, jouer dans ce stade, c'est quand même un peu compliqué. Hein. Ouais. Il faut arriver à lire le vent. Hein. Je l'ai souvent lu, ça aussi.
Ouais, c'est quelque chose qui pèse, mais on revient à ce que tu disais aussi. Sur l'absence de Sexton, Roseburn est un super joueur, mais alors dans ce profil-là de match, notamment la deuxième mi-temps où ils ont commencé à perdre beaucoup de duels devant, sa science tactique de tout ce qui est gestion du tempo, gestion des espaces, avec le vent en plus. Ça aurait pesé. Il est moins profil offensif. C'est vrai que Roseburn est un meilleur animateur certainement, mais là quand ils ont commencé à perdre beaucoup de duels devant, il aurait fait du bien Sexton.
Bah, tous les ouvreurs souffrent quand il y a des bouffées devant.
Hein. Ouais, mais avec l'expérience,
lui, il
sait
gérer ça.
Sexton, ouais, il en a géré quand tellement
même,
des matchs.
Il aurait pu prendre un autre KO quand même.
Oui, là, ah, oui, même aussi,
avec un Sexton dans la gueule, je vais te dire un truc, c'est pas sûr.
C'est peut-être mieux pour lui qu'il soit resté au frigo.
C'est peut-être mieux pour lui.
C'est pas faux.
Les Rochelais, auteurs donc d'un match énorme alors qu'ils étaient privés de leur public de feu, celui de Marcel de Flandre, considéré comme l'un un des meilleurs en Europe. Un public, Jeff, qui n'était pas loin, qui a su à la fois encourager ses héros avant match et les fêter dignement et de manière joyeuse après la rencontre.
Hein. Ouais, c'était un jour de fête hier à La Rochelle et pourtant, la semaine dernière, je vous le rappelle, le club maritime avait invité ses supporters à éviter les rassemblements. Et bah, ça s'est pas franchement passé comme ça. Il y avait du bruit hier à La Rochelle devant le stade Marcel de Flandre. Un gros bain de foule avant match et après match, les supporters, ils étaient rassemblés quasiment 1h30, 2h avant le coup d'envoi pour accueillir leur équipe à l'image de Pierre Amiche en train de lever les bras avec des écharpes, des maillots jaunes. Vraiment, c'était déjà une ambiance impressionnante. Mais surtout, à la fin de la rencontre, ils ont suivi le match chez eux ou sur leur téléphone portable, c'est ce qu'ils nous racontaient. Après, ils sont revenus. On est en finale. Ici, c'est La Rochelle, comme hein, Pierre, t'as vécu un peu ça. Et une vague jaune a envahi les rues près du stade, mais aussi le Vieux-Port avec des gens qui se sont jetés tout simplement dans le Vieux-Port. C'était une ambiance assez incroyable. Ensuite, une demi-heure après la fin du match environ, Romain Sazy et les joueurs sont allés voir les supporters. Une ambiance de feu, une photo souvenir. Et je peux vous dire que le capitaine, on va l'écouter, il boudait pas son plaisir.
Non, franchement, c'est génial. Ils étaient là à l'arrivée et on est très contents pour eux. La fierté forcément, mais bon, c'est une étape encore.
Ouais, une étape de plus pour la construction de cette équipe. Et à côté, Pierre Aguillon, cette tresse, cette coiffure qui tirait si bien Christophe, lui aussi, il clamait ses ambitions.
C'est énorme, mais franchement, on en veut plus. Quand tu vois ça, on n'a qu'une envie, c'est leur ramener un titre. Parce qu'il faut que la fête elle soit belle, on ne peut pas s'arrêter comme ça.
Fumigène, drapeau, chant, tout y était pour une journée historique, quasiment comme un titre, quasiment ou presque. On attend le 22 mai avec impatience.
Pierrot, quand t'entends ça, t'as des petits frissons. Il y a eu une petite larme hier devant ta télé.
Oui,
tu aurais bien été là-bas devant De Flandre quand même. Hein. Je pense que pour tous ceux qui suivent ce club depuis toujours, c'est des moments magiques.
Bah ouais, c'est un moment, c'est hyper particulier parce que c'est un moment magique et en même temps un moment un peu triste parce que ça fait tous un an et demi qu'on n'est pas allé à De Flandre, que ce soit les supporters réguliers ou moi qui le suis un petit peu moins depuis que je vis à Paris. C'est un monument vraiment, ce public, ce stade, cette ambiance. La région vit uniquement pour le stade de Rochelet. Illustration, mon papa et ma maman, ils sont allés à Super U, rien à voir avec la choucroute. Mais surtout, c'était à 15 km de La Rochelle, dans un petit village nommé Maran. Et ben, le Super U était en jaune et noir. Les serveuses, les caissières étaient tous avec le masque du Stade Rochelet, comme les policiers dans la rue à La Rochelle. Voilà, c'est une région entière qui vibre pour ce club. Et oui, j'avoue, j'ai versé ma petite larme à la fin du match. J'ai pensé très fort à mon papy. Voilà.
Alors, public de fou, club à part, l'un des plus anciens du rugby français, mais qui a mis longtemps finalement avant de vraiment s'affirmer comme un club qui compte. Pierrot, le sang jaune et noir donc coule dans tes veines, on l'a compris. Tu as longtemps dû te contenter de petits plaisirs. Les grands frissons ne datent finalement que de quelques années hein, avec le Stade Rochelet.
Bah ouais, tout est relatif. Et puis avec La Rochelle, on peut dire qu'en tout cas, les choses vont vite. Hein. Il y a 10 ans, le Stade Rochelet faisait l'ascenseur direction la Pro D2. Après une saison difficile et 6 petites victoires en championnat, le début d'un cycle incroyable. Tout démarre pour cette génération en 2013. Après 2 demi-finales d'accession au top 14 perdues et surtout après une énorme générale contre l'ennemi palois, bah c'est Colazo qui devient manager général du club. Et son objectif assumé, c'est d'installer l'équipe première en première division et puis surtout de structurer une équipe familiale mais avec un petit relent d'amateurisme. Le nom de code pour ce projet, Grandir Ensemble 2015, et les moyens comme le recrutement sont modestes. Les stars se nomment alors Serou Rabeni, Fabien Fortassin, recrue vedette de Pro D2 ou encore Robert Mort, le vieux guerrier allemand. La force de ce Stade Rochelet, il est double, hein. Son public, fidèle parmi les fidèles, assurant les huis clos et les rentrées économiques, et puis une capacité à révéler les talents de manière inégalée, notamment par Patrice Colazo, qui multiplie les coups gagnants, un gamin inconnu de Nouvelle-Zélande, Winnie Antonio, des joueurs d'expérience qui vont adhérer au projet, Canalé, Grand Clos, de Bobo. Et d'ailleurs, le patriarche fidjien, quasiment quarantenaire, va conseiller au staff Rochelet de se pencher sur un joker redevenu amateur au pays, gardien de prison au Fidji, un certain Levani Botia, terreur du top 14 aujourd'hui. Ce sont ces joueurs qui permettent au club de remonter. Première victoire pour Colazo et son projet en 2014 avec un an d'avance sur les plans. La montée en puissance est progressive hein, puisque vont débarquer des étrangers de talent. On pense à Jason Eaton, Rico January, Johnny Kovu, mais aussi des joueurs de Pro D2 qui vont exploser au plus haut niveau. Gabriel Lacroix, Vincent Ratez, Pierre Aguillon. Et puis le tournant, évidemment, c'est la saison 2016-2017 où le Stade Rochelet ne se bat plus pour le maintien. Non, cette fois premier de la phase régulière, de quoi changer de braquet et d'ambition. Les recrues sont désormais des champions du monde, Vito, Carbarlo, symbole de cette progression. Le 15 de France version Galtier s'appuie sur 7 joueurs qui jouent ou ont joué chez les Maritimes. Et depuis 5 ans, le club a même fourni près d'une quinzaine de joueurs à l'équipe de France, évidemment du jamais vu. En 10 ans, enfin, on soulignera que 3 joueurs ont absolument tout connu. Romain Sazi, Winnie Antonio et Kevin Gourdon, tous les 3 étaient titulaires en Pro D2 en 2014. Et tous les 3 seront des joueurs majeurs pour une finale européenne. Vincent Merlin, le président depuis 91, semblait ne pas y croire après le succès face au Leinster. Et à vrai dire, moi non plus.
Messieurs, la construction de ce club est un modèle que beaucoup devraient tenter d'imiter. Chapeau à Vincent Merlin, ouais. le président dont Pierrot parlait il y a un instant, aux différents staffs qui sont succédés depuis longtemps. C'est un modèle du genre, Denis.
C'est un modèle, ouais, c'est un précurseur, c'est un visionnaire. Je crois qu'il a vu le rugby avant les autres, enfin le rugby de demain avant les autres. Et pour y être allé il y a quelques années, quand ils étaient en Pro D2, j'étais très étonné, très bluffé par le nombre de partenaires qu'il y avait déjà en Pro D2, puisque je crois que c'était le nombre de 1000, si je ne me trompe pas, ce qui était colossal. Et il y avait une réception après le match, j'avais l'impression qu'ils étaient déjà au top, dans le top 14 en étant en Pro D2. Enfin voilà, ils étaient déjà en place. Et finalement, oui, ça a été très, très intelligent de monter les échelons, mais surtout je crois qu'il a pas brûlé les étapes, voilà, il l'a fait petit à petit, l'évolution, et s'est faite progressivement. Il a pris son temps, et à l'arrivée, ben, chapeau, parce qu'en peu de temps, ben, ils arrivent au pied de cette finale où ils sont pas favoris, mais ils sont ça va être du 50-50.
Alors quand on jette un œil aux effectifs des deux clubs qualifiés pour la finale, La Rochelle n'a pas à rougir du tout des noms opposés à ceux du Stade Toulousain. Quant à les Skelton, Vito, Aldrit, Bourgarit, Antonio, Dulin, Carbarlo, c'est du haut du très haut niveau, avec un budget qui n'est pourtant, Léo, que le 9e du top 14, en baisse de 3 millions cette saison. Comment font-ils pour attirer autant de cadres et pour battre les meilleurs?
Ouais, alors après, dans le budget, on peut rentrer à peu près plein de choses. On peut faire varier un budget assez facilement.
Oui, alors c'est les trucs officiels. Alors,
mais parce que, effectivement, le côté familial et amateurisme, au début peut-être. Quand même, aujourd'hui, le Stade Rochelet, c'est un club qui est hyper structuré, qui a tous les codes du professionnalisme, qui est très bien armé financièrement. Ils sont largement compétitifs sur le marché du recrutement, par exemple. Parce que, on peut raconter plein de choses, mais un champion du monde All Black, ça a un prix. Donc voilà, pour se le payer, il faut quand même pouvoir s'aligner sur les tarifs.
Donc le budget officiel n'est pas le véritable budget, c'est ça que tu es en train de me dire, Léo?
Non, c'est qu'il ne faut pas confondre le budget et la masse salariale.
Ouais, voilà, la masse salariale,
ils bloquent la payer avec...
Elle fait partie du budget, mais le budget, c'est aussi le stade, c'est aussi les infrastructures par rapport au centre de formation. Le Stade Toulousain, par exemple, a un budget énorme, mais ça ne considère pas uniquement les salaires. Je pense que le budget du Stade Rochelet n'est pas le plus important, mais la masse salariale, aujourd'hui, ils sont dans le top 5.
De toute façon, ils bloquent le salary cap. Donc, ils font partie, je crois, des 8 ou 9 clubs qui bloquent le salary cap. Donc, à partir de là, ils sont armés comme taqués, les autres.
Hein. Bien sûr.
Ils sont armés comme les autres.
Alors, le titre de frelon du week-end, on aurait pu le décerner à tous les joueurs rochelais ou presque. Si vous aviez eu à choisir l'homme du match chez les Maritimes, vous auriez choisi lequel,
Skelton.
Mais de loin.
Skelton.
Tout le monde est d'accord.
Aldrit aussi, quand même, aussi fait un match fabuleux. Mais Skelton.
Skelton fait une performance inouïe, quoi.
Quand vous le voyez en vrai, c'est Shrek, quoi. Il est impressionnant, c'est un Golgoth.
Mais bon, il a fait des efforts parce qu'il a perdu 15 kilos, je crois.
Perdu des centimètres. La photo de ta copine Cécile Gray à côté de
c'est un enfant, mais tout le monde à côté de lui. Enfin, même par les autres deuxième lignes font petit à côté de lui.
D'ailleurs, le sélectionneur australien va le reprendre.
Ses débuts en Australie, il devait avoir 15 kilos de plus, et c'était trop parce qu'il se déplaçait pas assez. Là, clairement, il n'était pas armé pour se déplacer. Là, avec ses 15 kilos en moins, ça reste quand même un monstre physique.
Mais c'est rare, Léo, quand même. Dans le rugby d'aujourd'hui, mais costaud, il y en a beaucoup quand même. Mais lui, t'as l'impression qu'il est au-dessus.
Ouais, il est hors norme.
C'est-à-dire que...
C'est un géant
qui est au milieu de...
Il a l'air d'être un bon géant, mais enfin, sur le terrain, il est pas si bon.
T'as l'impression qu'il est au-dessus. Il joue catégorie supérieure.
C'est ça. On a l'impression vraiment qu'il joue avec des cadets. C'était déjà le cas en Australie. Et sans ses 15 kilos perdus en Australie, il était beaucoup plus méchant parce qu'il était plus vite dans le rouge. Donc, souvent, aux alentours de la 50e, 60e, il avait les fils qui se touchaient, il mettait des grosses poires ou des coups de coude ou il marchait sur la gueule d'un gars. Et il a un peu réglé ses problèmes, parce qu'il a déjà pris des rouges cette saison, mais il a un peu réglé ce problème-là. Et au niveau du volume,
c'est vrai qu'il dégage dégage une sérénité certaine. Ouais. Je crois que c'est le facteur X. Ouais. Autant à Toulouse, t'as Tupon qui est le facteur X, autant lui, vraiment, c'est le facteur X de la Roche.
Et il a un autre truc, c'est qu'effectivement, physiquement, il est hors norme, mais souvent, ces joueurs qui sont un peu hors catégorie, ils construisent leur jeu presque essentiellement, voire essentiellement dessus. Lui, c'est quand même un vrai bon joueur de rugby. Il a des mains, il se déplace, il comprend le jeu, il a tout. Hein.
Bon, Skelton, frelon côté Rochelet, mais comme il y a trop de prétendants, bah, on a opté pour un Toulousain d'origine néo-zélandaise, le trois-quarts-centre Pitak.
RMC, entre les poteaux,
lancé comme un frelon.
Alors, à qui c'est peut-être le nom le moins ronflant, Pierrot, de la ligne des trois quarts du stade toulousain. Pourtant, quel joueur, un vrai black, sauf qu'il n'a jamais porté ce maillot mythique. Hein.
Eh oui, bah, comme souvent, le néo-zélandais a été impressionnant ce week-end, mais c'est vrai que dans la constellation toulousaine, ça n'est pas encore l'étoile la plus clinquante. Pourtant, c'est lui l'homme de base de Mola depuis trois saisons. 48 matchs disputés, c'est plus que Keino ou Julien Marchand. Ses qualités, elles sont autant physiques, 1m90, près de 100 kilos, que techniques. Et à la sortie d'un match de guerrier comme celui de samedi face à Bordeaux, bah ceux qui en parlent le mieux, ce sont ses coéquipiers comme Max Médard.
Ouais, je pense qu'il peut être élu homme du match presque tout le temps. Il est juste magnifique en défense, en attaque, il rassure tout le monde et voilà, il a cette qualité remarquable de casser les joueurs en face. Donc enfin, pour nous c'est un régal de jouer avec lui. Ouais. C'est, en plus c'est quelqu'un qui est
recruté au Connard pour faire oublier les départs de Fritz, David, Ficou. Il profite du tournoi pour s'imposer au centre de l'attaque. Il est devenu indéboulonnable. Il décroche même le titre avec Toulouse. Et malgré tout ça, le Néo-Zélandais n'a jamais été sélectionné chez les Blacks. Et Hugo Molas permet un avis personnel sur la question.
T'es pas All Black, mais ils ont pas eu le nez creux.
Bon, il faut dire que la concurrence du moment se nommait Conrad Smith, Mahanonu, Fekitoa, Sonny Bill. De quoi le pousser vers un départ, vers l'Europe. Et puis Siaki n'a jamais été un All Black, il a déjà porté le maillot noir. Et oui, chez les moins de 20 et à 7. L'autre explication, eh bien, ce sont les blessures. Parce que Fomuina, son compatriote, confie à Pierre-Henri Broncan au stade toulousain. Ce gamin-là, il devrait être un All Black. S'il n'était pas blessé, il le serait en cause. Un genou dans un état triste qui a bien failli faire capoter son arrivée dans la ville rose. Et même s'il réalise des grands matchs, son coach sait qu'il faut gérer sa pépite.
C'est un garçon qui souffre un petit peu de son physique et que l'on gère au quotidien. Et d'ailleurs, le staff médical réalise un boulot incroyable. Pita est un garçon qui souffre aussi de quelques petites pathologies qui l'empêchent d'enchaîner. Mais il réalise un match XXL ce soir et vous l'avez... Il me semble que c'est vous qui lisez les hommes du match. Donc, écoutez, je pense que vous n'êtes pas trop planté.
Adoubé par l'immense Yannick Jozion dans la dépêche, il peut espérer faire mieux que le Tarnais, signer un doublé championnat Coupe d'Europe inédit pour Toulouse. Et pour ça, son club aura besoin d'un très grand Pitak.
À qui, lointain successeur d'un certain Denis Charvet, est-ce que tu l'adoubes en tant que centre du stade toulousain?
Évidemment, quand tu es un amoureux du rugby et surtout du beau jeu, oui, il est tellement facile. C'est vrai que, curieusement, tu as l'impression que tout ce qu'il fait, c'est simple. Et en fait, ce qu'il fait, c'est le plus dur.
Et que ce soit en attaque, mais aussi en défense.
Et en défense, c'est monstrueux. Il a l'intelligence en défense qui est remarquable. Il ne se fait jamais prendre en défaut. Et puis en attaque, il a les mains, les deux mains, les deux côtés. Il a des crochets très courts, des crochets très courts qui lui permettent d'avancer dans les intervalles très facilement. Non, mais c'est pas d'aujourd'hui qu'on connaît Akie et qu'on le découvre. Hein. Et c'est un joueur, effectivement, qui aurait pu être All Black haut la main, même s'il y avait Conrad Smith et comment il s'appelle
Il y avait
un vrai prétendant, mais bon.
Après, faut le gérer physiquement aussi, parce qu'il a quelques pépins parfois, il a quelques douleurs. Et c'est vrai qu'il faut savoir.
Là, il n'avait pas joué pendant trois semaines avant de
une certaine fragilité, oui.
Fragilité, paraît-il, au tendon d'Achille. Ouais, j'espère qu'il ne va pas lui arriver le même.
Vu son importance et vu ses fragilités, je pense que je suis pas sûr de le revoir jusqu'à la finale. Je pense qu'ils vont le remettre dans le formol.
Ouais, mais l'avantage, c'est que Toulouse peut un peu gérer son avance en top 14 parce qu'ils ont pas mal d'avance.
Mais l'équipe de Toulouse sans lui, c'est pas la même équipe. Hein. On parle Dupont, Ntamack, c'est lui quand même. C'est le.
Mais attention, c'est pas le mec le plus flamboyant.
Non, mais quand il est pas là, c'est pas la même équipe.
C'est pas le régulateur. C'est le titre de 2019, si on se souvient bien, notamment la finale.
Énorme.
On se souvient beaucoup des grands noms, mais pour moi, le meilleur joueur de la finale 2019, c'est lui, notamment parce qu'il était un Moala au milieu du terrain qui était le meilleur joueur clairement. Et il avait été exceptionnel en finale. Ouais.
Alors le 29 mai prochain à Twickenham, il y aura donc face à face presque la moitié de l'équipe de France, quelques anciens All Blacks qui ont marqué de leur empreinte le rugby mondial, quelques hommes montagne australiens ou encore le seul petit grand homme que compte le rugby sud-africain. Bref, un régal qui se produira devant quelques 10 000 spectateurs à Twickenham. On aurait préféré le voir se jouer à Bordeaux, pourquoi pas. Ça aurait été
mais avec 1000 spectateurs, il y a déjà 5000 places qui ont été vendues.
Alors les supporters pourront y aller, non.
Mais non, parce qu'il y a 40.
quatorzaine.
Ouais. Il y a une quatorzaine. Bah, il y a au moins quelques jours de comment je pourrais dire, d'isolement, ça c'est sûr. Les journalistes pourront peut-être y aller, mais les supporters pourront pas y aller, ouais.
Oh, ouais, à moins qu'ils posent 15 jours.
Les journalistes peut-être, mais les consultants, non.
Non, trop cher.
Merci. Non, c'est pas trop cher, on est privé.
C'est dommage
encore.
De dire, on est en avec toi, Angleterre,
Christophe,
les pubs ont ouvert.
Je suis avec toi. C'est très bien.
Les pubs ont ouvert.
Je
l'ai
aujourd'hui, tu vois, je suis très heureux. Ah, mais c'est bon, t'es bien de Londres. T'es bien avec moi. On invitera Richard Poudjon, s'il nous en fera une bouteille. On sera bien. Jeff, c'est pas la première fois, loin de là, que deux clubs français s'affrontent en finale. Tu t'es penché sur l'histoire de ces finales franco-françaises. Je vais y arriver.
Ouais, ça sera la sixième depuis 1996. Et en fait, c'est une vieille habitude pour le Stade toulousain qui, en 2003, avait battu Perpignan 22-17. À Dublin, les Toulousains menaient 19-0 et ensuite 22-17. Ça, c'était en 2003. Deux ans plus tard, Toulouse, Stade français à Édimbourg, cette fois, match très, très serré après prolongation 18-12 pour les hommes de Guinoves. Rebelote, cette fois, au Stade de France en 2010. Toulouse, Biarritz, 21-19. Là aussi, ça avait été très compliqué, mais Dussautoir et ses partenaires l'avaient emporté, notamment grâce à une mêlée. Bon, ça, c'était la fin de la période de gloire, entre guillemets, pour le Stade toulousain, puisque après, c'est Toulon qui a pris le relais et un bon vieux classico, c'était le classico à l'époque, Toulon-Clermont en deux actes. Le premier à Dublin, un match complètement fou. Mourad Boudjelal, celui-là, l'avait suivi dans un taxi autour du stade. 16-15 pour le RCT. C'est l'époque Boudjelal, Laporte, Botta et compagnie. Ça avait fait un petit carnage. Et en 2015, cette fois à Twickenham, victoire plus convaincante encore du RCT face à Clermont, 24-18. Malheureusement, sur les dernières confrontations, on voit que c'est serré. Il n'y a pas toujours du spectacle. Et on espère que ce sera plus reluisant que les matchs qu'on a vus, les confrontations franco-françaises ces dernières semaines, à l'image de UBB Racing, qui n'était pas un match folichon-folisson. Et samedi, où c'était un match mitigé entre Toulouse et l'UBB.
Ouais. Est-ce que, pour vous, ça a le même charme, une finale entre deux clubs français? On a déjà abordé le sujet avec des demi-finales franco-françaises, mais là, une finale,
non.
Denis.
Oui et non, pour avoir vécu
Plus enthousiasmé, finalement, ce week-end avec la victoire de La Rochelle contre une province irlandaise.
C'est plus facile à dire. Et puis même le match Toulouse-Belge est un peu fermé. Bon, les conditions climatiques n'étaient pas bonnes non plus. Mais ouais, c'est sûr que ça enlève un peu de piment. Mais en même temps, j'ai hâte d'y être aussi. Je crois que elle était tellement inédite, tellement inattendue, que quand même, ce Toulouse à Rochelle, quand tu vois les matchs de La Rochelle, tu dis, est-ce qu'ils vont être capables de renverser l'ogre toulousain? Ça me donne envie de vraiment voir ce match.
Et Toulouse et La Rochelle ne seront pas les seuls clubs français à disputer une finale européenne. Et non, Montpellier s'est également invité à la fête en allant battre les Anglais de Bath ce week-end. Du coup, Montpellier disputera la finale du Challenge européen contre les Tigres de Leicester, ancien Grand Europe, là aussi double vainqueur de la Champions Cup. Montpellier qui revient presque de l'enfer en championnat, dont il n'est pas encore complètement sorti, mais presque. Montpellier, dont l'un des coachs est notre invité entre les poteaux, ce n'est pas Philippe Saint-André, mais Jean-Baptiste Elissal, patron des Trois Quarts Montpellier. Salut Jean-Baptiste.
Bonsoir à tous.
Salut Jean-Baptiste. Dis donc, quel week-end pour toi, Jean-Baptiste? Tes trois clubs ont gagné. Comment tu as vécu ça? Est-ce que, comme Wilfried, tu as fêté ça tout au long du week-end? Comment est-ce que la banane est restée sur ton visage tout au long du week-end?
Oui, bah forcément, j'avais une bonne nouvelle tous les jours, en tout cas toutes les heures. Et puis, mais c'est vrai que vous, dans votre petite famille, entre Quentin Vinet, Pierre Habiche, Wilfried Templier...
Ah oui, il y en a un paquet.
La mafia. Denis, t'es submergé, non, Denis?
Ouais. De toute façon, ils ont le boulard, tu sais, c'est comme ça, on fait avec. Hein. On dit qu'on a le
pas
boulard,
tout,
les Toulousains, mais non, les La Rochelle sont
pas... construit dans la durée.
C'est Jean-Baptiste, quel est le club qui a le plus le boulard, La Rochelle ou Toulouse?
Toi qui as joué dans les deux.
Quand je jouais à La Rochelle, c'était Toulouse, hein, quand même. les voir gagner tout le temps. Après, c'est vrai, quand tu te mets dans la peau du Toulousain, tu peux devenir un peu, de temps en temps, arrogant ou montrer de la facilité. Donc, c'était un peu particulier. Mais non, j'ai le souvenir de quand je jouais à La Rochelle que Toulouse, c'était la classe au-dessus, le talent et la facilité. Donc, ça peut agacer parfois.
Jean-Baptiste, on va reparler de La Rochelle et de Toulouse, de cette finale. On va quand même revenir sur ton actualité à toi, la qualif du MHR 19-10, donc sur la pelouse de Basse. C'est votre sixième succès de rang en Coupe d'Europe et Top 14 confondu. On n'arrête plus le MHR, ça y est là, vous êtes lancé comme des frelons.
Oui, pourvu que ça dure. On est sincèrement dans un contexte très particulier cette saison. Ici, les joueurs ont eu du mal à gagner des matchs de... 4 à la suite, je crois qu'ils se sont joués dans le Money Time, 2 points perdus, le moral était difficile, et puis ils ont cru en eux, donc ils se récompensent sur cette compétition de la Coupe d'Europe, et puis sur le championnat, il ne faut pas sortir l'esprit, et notre cible numéro 1 qu'on n'est pas maintenu encore.
Voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu un déclic, Jamba, par rapport à ce début de saison catastrophique C'est quoi pour toi le déclic qu'il y a eu?
Je sais pas déjà. Malheureusement, Xavier est parti. Moi, je suis arrivé au club en cours de saison l'année dernière. Ça n'a pas été très très stable. Et puis les joueurs ont joué de malchance. Au début, ça a commencé par un match catastrophique contre Pau. Puis après, quand nous, on était en bonne santé, je parle au niveau du Covid, c'est les équipes adverses qui l'avaient. On a eu une grosse période sans jouer. On était à Bayonne, on a eu 5 blessés. Après, quand les autres équipes étaient prêtes à jouer, nous en face, c'est nous qui avons été impactés par le Covid. Donc on a eu encore une grande longue période. Et tout ça, c'est mal goupillé. Et puis voilà. Et puis les joueurs ont pris confiance en eux avec 2-3 résultats qui ont basculé en notre faveur. Et il y a de la qualité dans cette équipe. Donc voilà. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout et surtout se maintenir.
Jean-Baptiste, cette finale de Challenge européen, ça peut vous offrir un billet pour la Coupe d'Europe, pour la Champions Cup la saison prochaine. Mais ça vous aussi un vrai casse-tête pour gérer cette fin de saison. 2 matchs en semaine, si je ne dis pas de bêtises. Ça va être compliqué à gérer, non?
Ouais, 2 matchs en semaine et dans le même mois.
Ouais.
Je crois que les règles n'étaient pas les mêmes avant. Enfin, j'ai pas tout compris. Non, c'est pas équitable.
Non, c'est pas équitable, c'est sûr.
Là, on peut pas. On va jouer une finale. On va aller 3 jours après à Bordeaux. 3 jours après à Bordeaux, quand vous savez la qualité de Bordeaux qui joue une demi-finale de Coupe d'Europe, on enchaîne avec un. Non, c'est pas. Voilà, ça va être très compliqué là-dessus. Après, on a les bonnes nouvelles. André qui est revenu ce week-end. André Pollard, c'est pas rien. Mais on n'est pas sûr que son état physique puisse enchaîner ce genre de match après une longue blessure. Donc on va certainement ne pas prendre de risques avec lui. Il a aussi une tournée, c'est pas respect pour lui. Voilà. Bon, on a des complications, mais le moral est bien mieux. Et en plus, bon, quand ça gagne, tout va bien.
Évidemment. Jean-Baptiste, tu as des certitudes sur la suite, ta suite personnelle, professionnelle, parce qu'on apprend que Philippe pourrait finalement rester, que Azema, c'est un peu compliqué. Est-ce que tu as été tenu au courant? Est-ce que tu sais quelque chose te concernant?
En fait, j'ai assez de travail avec le terrain, l'analyse des matchs. On n'a pas un staff très étoffé, voilà. Donc je me concentre là-dessus. Moi, j'ai encore 2 ans de contrat et je m'occupais de la défense. Et je m'occupe encore de la défense. Au début, c'était mes prérogatives. Aujourd'hui, bien évidemment, il faut faire un peu avec les 3/4, animation offensive, etc. Donc j'ai pas trop de questions à me poser. Je lis comme vous ce qui se passe. J'attends. Mais l'année prochaine, en tout cas, je pense être encore à Montpellier.
Et revenir un jour à La Rochelle, entraîner ce club avant d'aller refaire les matchs au vieux Crampon dans le bistrot de papa.
Est-ce que ça fait
partie de tes rêves pour le futur, ça?
Revenir à La Rochelle, oui. Ouais. Alors après, le problème, ça serait y revenir et puis en repartir. Ça serait terrible parce que je l'ai déjà fait une fois. Ouais. C'est un bel endroit, c'est un très beau club. Vous voyez ce qui se passe, ce qui peut se passer autour de ce club dans cette ville. Il faut jamais dire jamais, mais sincèrement, ça serait plutôt pour y aller, voilà, au vieux Crampon, voir mon père, prendre du temps et pas forcément entraîner à ce niveau-là.
Tu as eu ton papa, j'imagine, depuis hier soir. Il est dans quel état?
Il a pris vraiment du recul comme un technicien. On a beaucoup parlé de rugby, on a parlé de la maîtrise de la charnière rochelaise, bien aidé, bien évidemment, par 4 porteurs exceptionnels devant. Mais la gestion au pied a été parfaite, comme depuis le début de la saison. C'est stratégiquement et tactiquement, c'était très 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 propre. Voilà, face au Leinster. Donc on a parlé de ça et pas forcément de l'émotion de voir notre club à ce niveau-là, parce que c'est dans une suite logique. Le travail de Vincent Merlingue est exceptionnel depuis des années. Mon grand-père a été il y a une soixantaine d'années. Il y a eu une école de rugby, tout ça. On a vécu, moi, avec cette famille de l'intérieur, vraiment la progression de ce club. Et aujourd'hui, les voir à ce niveau-là, c'est quelque chose de très beau.
Ouais. Jean-Baptiste, il y a une finale, donc, La Rochelle-Toulouse. Moi, je me souviens d'un match à La Rochelle où tu joues avec La Rochelle et tu mets un drop à la dernière seconde.
Tout le monde pleurait, c'était magnifique. Oui.
C'était un championnat,
L'arbitre était reparti avec une belle bourriche d'huîtres. À l'époque, après la sirène, il n'y avait pas de sirène, mais je crois 88 minutes.
Ouais, c'est ça.
Alors,
pour te dire,
cette fois-là, La Rochelle avait gagné.
J'avais une extra balle, parce que le premier drop, je mets une saucisse.
Ouais, c'est vrai.
Je me souviens de celui-là. Ça aurait pu être la mauvaise histoire aussi. Donc la belle histoire, c'est qu'il y a eu ce drop. Oui, c'est une belle image parce que c'est la première fois que La Rochelle
bat Toulouse.
Ce petit club qui venait, voilà, battait ouais. Toulouse, qui à l'époque, ça trustait les titres et les. Tous les ans.
Voilà, était pour qui alors, La Rochelle ou Toulouse? Allez, vas-y.
Alors, tu sais que. Alors, et Jean-Baptiste, est-ce que tu pourras assister à la finale parce que tu seras la veille avec Montpellier le vendredi soir. Est-ce que tu pourras rester quelques heures supplémentaires?
Je sais pas quand est-ce qu'on revient. Je sais pas si on sera. Mais bien évidemment, je vais la regarder. Pour qui je suis.
Partagé quand même, non?
Oui, complètement. Ouais, vous savez, j'y ai fait ma formation à La Rochelle. Je vous ai dit la filiation, mais. Mais Toulouse, j'y ai passé le plus clair de mon temps.
T'as gagné des titres,
et j'ai gagné des titres là-bas. Donc c'est très difficile de me prononcer, mais sincèrement, en plus je vais le regarder, je sais, comme un beau match de rugby, et je serai heureux de voir le port de La Rochelle rouge et noir ou le Capitole. Enfin, ça sera les mêmes émotions parce que ces deux clubs-là, j'y vais dans la peau, c'est sûr.
Magnifique, eh ben, ça va être un beau moment à vivre, donc cette finale entre Toulouse et La Rochelle, et la veille, cette finale entre Montpellier et Leicester. Merci Jean-Baptiste d'être venu nous faire part
Merci
de tes
vous.
Émotions.
Merci et bonne chance pour la finale.
Ouais, pour le maintien surtout.
Oh. Oh, c'est fait ça,
pas, les mecs.
C'est fait ça la finale.
Oui, oui.
À bientôt Jean-Baptiste.
À bientôt. Ciao,
à bientôt. Voilà pour les potons. Malheureusement, on avait prévu d'autres choses, mais là, on est un peu court là, hein. Un peu long peut-être.
C'était sympa de l'avoir. Mais oui, c'est sympa de l'avoir, Jean-Baptiste.
Magnifique. Merci les potos.
Hein,
on se retrouve la semaine prochaine. On va revenir au top 14 quand même.
Ah oh non, on veut rester sur la Coupe d'Europe où La Rochelle elle gagne et tout là. Non, mais
le mec, il crache sur la Coupe d'Europe depuis 10 ans et là, ça y est, se retrouve en finale.
Ah bah oui, ça y est, on a retourné sa veste. Bah, et puis si on la perd, on dira qu'on s'en fout. Et puis si on la gagne, on dira que c'est un super trophée. Voilà, c'est comme ça.
Peut-être la finale
top 14. Ouais, bah la finale du top 14 en croisée d'hommes, on n'y est pas. Alors que la finale de la Coupe d'Europe, ça y est, on y est là.
Merci les potos, rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine.